David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Alors, les États-Unis sont sur le point d'approuver l'envoi d'une batterie de missiles en Ukraine, accédant finalement à une demande urgente des dirigeants ukrainiens qui réclament des armes plus robustes pour abattre les missiles russes, notamment le président Volodymyr Zelensky. Alors, pour commencer, c'est un acte fort de la part des États-Unis. On parle là de missiles sol-air les plus efficaces envoyés par l'Occident à l'Ukraine depuis le début de la guerre.
Oui, alors il y avait des hésitations effectivement américaines, notamment entre le département d'État, Anthony Blinken, et puis le Pentagone, donc le secrétaire d'État, et puis le chef d'état-major, Mark Milley, parce que il y a effectivement des interrogations. Ce sont des systèmes les plus performants au monde, quasiment. Les systèmes, alors on ne sait pas encore quelle est la version qui va être donnée aux Ukrainiens, si c'est le système PAC-2 ou PAC-3, qui est la dernière version, particulièrement efficace contre les missiles de croisière, les avions, voire les missiles balistiques tactiques. Donc c'est à la fois c'est un système anti-aérien, anti-missile de moyenne et longue portée. Donc ça donnerait effectivement un avantage considérable à la défense anti-aérienne et anti-missile de l'Ukraine. Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a eu la prise en compte du fait que l'Ukraine était soumise à un feu roulant de vagues de missiles, de drones et de missiles, donc de drones iraniens essentiellement, Shahid 136, Muajir 6, etc., et aussi de missiles. Donc, il fallait répondre à des demandes qui étaient répétées de la part de Kiev. Les mêmes demandes d'ailleurs qui avaient été formulées auprès d'Israël, hein, avec la technologie du dôme de fer, et à laquelle Israël n'a pas donné suite. Mais là, en l'occurrence, les Américains ont pris en compte une évolution de la situation, c'est-à-dire effectivement les vagues successives de tirs de missiles sur les infrastructures énergétiques, notamment de l'Ukraine.
N'y a-t-il pas là un risque d'escalade avec ce nouvel engagement des États-Unis ?
Alors, c'est la raison des réticences américaines, hein, jusqu'à présent. C'était qu'effectivement, il y avait un soutien militaire affirmé, renouvelé, avec des centaines de millions de dollars, d'ailleurs, ces derniers jours, en termes d'armement et de munitions. Les Ukrainiens avaient déjà bénéficié de systèmes antimissiles, mais à moyenne portée, hein, notamment les SAMP T ou le système italien ASPID. Voire les systèmes NASAM américains, mais là en l'occurrence c'est effectivement on passe un seuil, parce que c'est quantitativement, c'est surtout qualitativement que le seuil est passé, parce que ça offre effectivement une des possibilités, des capacités aux Ukrainiens qui sont jusqu'à présent sans commune mesure.
Alors, on a beaucoup dit que la Russie commençait à faiblir. Washington a même déclaré que la Russie utilisait des obus périmés car leur stock s'amenuisait. Est-ce là le moment opportun pour asséner un gros coup aux forces russes ?
Oui, c'est pas le fond de la décision américaine, hein, parce que j'évoquais le débat au sein de l'administration entre les politiques et les militaires, notamment. Donc là, c'est plutôt la prise en compte, effectivement, d'une certaine manière, du matraquage en fait des villes ukrainiennes, des infrastructures critiques, énergétiques notamment, parce que les Américains ont considéré qu'on était passé à un niveau supérieur et que ça nécessitait une réponse également d'un niveau supérieur, avec toutes les réserves que ça implique, parce qu'effectivement, ce type de système, jusqu'à présent, les Américains n'avaient pas voulu le donner aux Ukrainiens. Pour éviter justement de passer de on va dire d'accentuer une forme de co-belligérance implicite, parce qu'il y a un refus avéré de co-belligérance active, mais en l'occurrence effectivement c'est doter l'Ukraine de capacités dont elle bénéficiait pas juste là, et qui peuvent faire la différence justement alors en termes défensifs, mais évidemment ça soulève des questions en termes de la profondeur de l'engagement évidemment.
Vous parlez des réticences, il y a évidemment l'utilisation de ces systèmes qui est très compliqué. Cela veut dire que de toute manière les Ukrainiens ne vont pas pouvoir l'utiliser tout de suite, ils vont devoir d'abord apprendre à l'utiliser.
Ah oui, de toute façon ce type de système technologiquement est très complexe. Surtout s'il s'agit de la version améliorée, hein, le pack 3 par rapport au pack 2. Faut rappeler que le pack 2, par exemple, c'était ce qui avait été utilisé au moment de la guerre du Golfe pour justement intercepter les scuds irakiens. On s'en souvient, lors de la tempête du désert en 1990-91. Là, en l'occurrence, ce serait potentiellement la dernière version, beaucoup plus intégrée et performante. Et de toute façon, ça impliquerait une formation, manifestement, d'après ce qui a filtré dans la presse, notamment Associated Press, Reuters, voire CNN, sur une base américaine à Grafenwöhr, en Allemagne. Parce qu'effectivement, ça demande des compétences et l'assimilation d'une expertise en fait technique qui demande une formation approfondie.
Alors il y a aussi l'acheminement qui est une réticence. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement grands. Est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que ça va être acheminé?
Bah, vraisemblablement, ce serait acheminé à partir d'un pays tiers, pas directement des États-Unis, mais vraisemblablement d'un membre de l'Alliance Atlantique qui ferait bénéficier justement l'Ukraine des systèmes dont le pays en question serait déjà doté. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce serait effectivement via un pays tiers qui se dessaisirait d'une certaine manière des missiles dont il dispose au profit de l'Ukraine, compte tenu de ce qui est considéré comme l'urgence de la situation.
Alors, je le disais en introduction, Volodymyr Zelensky réclame plus d'armes, que ce soit aux États-Unis ou à l'Europe. Est-ce que justement ce nouvel engagement des États-Unis pourrait convaincre l'Europe d'agrandir son engagement?
Bah, de toute façon, c'est déjà le cas, hein, parce qu'il y a des fonds de nouveaux fonds qui sont alloués, très importants. Alors, d'abord pour pallier les dégâts, les conséquences de la guerre en termes d'infrastructures civiles, mais également militaires. Et il y a, de la part des Européens, effectivement, l'idée d'approfondir cet engagement militaire pour soutenir la défense ukrainienne. Donc, c'est simplement, en termes quantitatifs et qualitatifs, évidemment, ça, c'est sans commune mesure avec l'engagement américain. Mais on peut pas dire que les Européens ne s'engagent pas non plus, hein. J'évoquais les systèmes antimissiles à speed italiens ou l'Iris SLM allemand. Donc il y a de toute façon effectivement il y a un système aussi le SAMP franco-italien qui est d'interception de moyenne portée qui est en passe d'être fourni. Donc il y a un engagement de toute façon européen qui est constant et qui n'est pas démenti pour l'instant.
Alors pour finir, il y a plusieurs fronts qui sont en pause mais pas en trêve, notamment du côté de Bakhmout dû aux conditions climatiques. Cela laisse-t-il un peu de répit aux dirigeants pour avancer dans leurs négociations?
Il y a une petite musique effectivement depuis quelque temps sur une potentielle négociation qui serait à terme inévitable. Des deux côtés d'ailleurs, mais pas avec évidemment avec les mêmes attendus, c'est tout le problème, parce que ça relève pour l'instant du dialogue de sourds, mais il est évident que de toute façon il y a un moment où la négociation sera posée, selon des termes qui ne sont évidemment pas connus pour l'instant, parce que de toute façon il y a un gel au sens propre comme au sens figuré avec le changement climatique saisonnier, qui va ralentir pour partie les opérations militaires, même si sur certains fronts les combats sont extrêmement violents et sanglants, hein. C'est le cas, vous évoquez le front de Bakhmout, parce que la milice Wagner en fait une affaire presque personnelle, hein, enfin celle de son chef, Prigogine, pour donner un trophée à Vladimir Poutine. Donc ça ne veut pas dire que l'hiver va arrêter les combats, mais effectivement les grandes opérations qui avaient eu lieu jusqu'à présent, notamment la contre-offensive ukrainienne, mécaniquement, si j'ose dire, est amenée à ralentir, en reportant l'ensemble effectivement des combats au printemps. Et là, le moment de vérité interviendra, à la fois en termes de pérennité du soutien à l'Ukraine, et puis de la part des Occidentaux, et puis du rétablissement ou pas des capacités militaires russes à la faveur de la mobilisation partielle et du réarmement en cours.
David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.